Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Nous nous apprêtons à nous plonger dans un puissant symbolisme. Demain soir, nous nous assemblerons pour la fête des tabernacles, pour la soirée inaugurale. Dans la Bible, un tabernacle est un puissant symbole. Au cours des prochains jours, nos pensées s'attarderont sur le symbole des tabernacles. La Bible est pleine de symboles, et les tabernacles ou les tentes symbolisent souvent des demeures temporaires. Mais ces tabernacles ou ces tentes nous rappellent aussi la nature temporaire de notre vie physique présente. Reportons-nous à 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ce domicile céleste, évidemment, nous ne l'avons pas encore, mais c'est ce qui est prévu, évidemment. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc il y a possibilité dans un sens comme dans l'autre, n'est-ce pas? Ou bien nous réussissons, ou bien nous serons dans le royaume, ou bien nous n'y serons pas. Car tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps physique, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous, dépouiller, mais nous revêtir, spirituellement parlant, n'est-ce pas, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et la vie éternelle, bien sûr, ici. Le premier symbole de cette fête sera donc celui des tabernacles. Néanmoins, plusieurs autres symboles puissants seront aussi évoqués pendant cette fête. Nous allons passer 8 jours plongé dans un puissant symbolisme. Nous nous abreuverons de la profonde signification spirituelle de plusieurs symboles. Il y aura donc celui des tabernacles, mais aussi celui de l'agneau, n'est-ce pas? Dans les messages qui nous seront donnés pendant cette fête, il sera souvent question de l'agneau. L'agneau est un autre symbole biblique très significatif. Nous parlerons beaucoup pendant cette fête de l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 36. Jean chapitre 1 et le verset 36. Jean 1, 36. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, il s'agit de Jean-Baptiste ici, il dit, voici, voilà l'agneau de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 18, 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Apocalypse chapitre 5 et le verset 11. Apocalypse 5, 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, donc des millions probablement. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il sera question souvent pendant cette fête lors des messages qui nous seront donnés de l'agneau, de Christ. L'agneau est donc un symbole pour Christ, mais pas le seul. Christ est aussi, et il en sera question pendant cette fête en même temps, du bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10 et le verset 11. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces symboles. Lorsque vous écouterez des messages pendant la fête, essayez de vous rappeler de ce message que je vous donne aujourd'hui. Parce que Dieu se sert souvent de symboles. Les symboles sont des outils puissants pour nous révéler certaines choses. Comme certains mots parfois, un mot qui évoque beaucoup de choses. Comme je le disais dernièrement dans l'un de mes messages, Verdun par exemple. C'est un seul mot, mais il évoque en nous des émotions particulières. C'est un mot, oui, mais c'est un mot qui est évocateur de beaucoup de choses. Même chose avec les symboles, même chose avec les images, même chose avec les paraboles que Christ utilisait. C'est des outils très puissants pour nous aider à approfondir notre connaissance et notre appréciation des choses spirituelles. Christ est donc le bon berger, d'après la Bible. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger, pas n'importe quel berger, mais le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça donne une idée de sa mentalité, de ce que Dieu pense, de ce que nous sommes pour lui à ses yeux. Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux 13 et 20. Verset 20. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et un rappel pour chacun de nous, 1 Pierre chapitre 2 verset 25, 1 Pierre 2, 25. Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Tout cela, c'est très profond, n'est-ce pas? Il est notre berger, Dieu est notre berger, Christ est notre berger, et il est le gardien de nos âmes. Il se soucie de ce que nous sommes, de ce que nous devenons. Il est le gardien de nos âmes. Une très belle image. Il en sera question pendant cette fête, probablement plus souvent que nous n'y pensons sciemment. Il sera aussi souvent question pendant cette fête de nous. Et Dieu se sert pour nous décrire comme symbole de celui des brebis. Intéressant comme image, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34 et le verset 20. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté, avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. Et comme nous allons le voir, il est question de deux sortes de brebis. Le terme brebis est un terme générique. Mais il y a deux sortes de brebis. Qui sommes-nous? Pour faire partie du royaume, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas de ces brebis qui ont des cornes, autrement dit, des boucs. Car Christ séparera les brebis d'avec les boucs, comme il l'a précisé dans Matthieu chapitre 25 et le verset 33. Je ne me reporterai pas à ce passage, mais vous le connaissez. Les brebis et les boucs. Dieu mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il va faire le tri, mais qui sommes-nous? Est-ce que nous avons tendance à pousser les choses pour notre propre satisfaction? Il y a deux sortes de brebis, n'est-ce pas? Il sera question aussi des brebis et des boucs lors de cette fête des tabernacles. Peut-être que ce ne sera pas les termes qui seront évoqués, qui seront même mentionnés, mais pensez-y à l'avance et essayez de vous souvenir lorsque vous écouterez ces messages. du puissant symbolisme qu'il y a dans chacune de ces fêtes, et notamment dans la fête des tabernacles. Il est aussi question pendant cette fête, il sera aussi question pendant cette fête, d'un autre symbole pour Christ, la porte. La porte. Une porte donne accès à quelque chose, n'est-ce pas? Christ nous donne accès à sa voix, à la vie éternelle, à la famille divine. Jean chapitre 10, verset 7. Jean chapitre 10 et le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutées. Et c'est vrai que si nous sommes de vraies brebis, les vrais appelés, les élus, on est appelés, mais après, une fois qu'on est appelé, il faut qu'on devienne les élus, n'est-ce pas? Mais nous devons nous diriger dans la bonne direction, vers la porte qui nous ouvre accès, qui nous donne accès au royaume, n'est-ce pas? Je suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Des pâturages, encore un autre symbole finalement, des pâturages. Il trouvera des endroits où se nourrir spirituellement, n'est-ce pas? Car il n'est pas question de brebis physiques ici. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. La vraie vie, la vie éternelle, et qu'elles l'aient en abondance aussi, mais la vie éternelle, mais aussi dans cette vie. Dans cette vie, nous sommes bénis et nous avons la vie en abondance même à ce moment. Il sera aussi fortement question pendant cette fête d'un autre symbole pour Christ. Le chemin. Le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, nous étions dans Jean, quelques pages plus loin. Jean chapitre 14 et le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons tous un itinéraire à emprunter, n'est-ce pas? Lorsque nous voulons aller d'une destination à une autre, d'un endroit à un autre, eh bien, nous prévoyons notre parcours. Et pour cela, nous utilisons un certain chemin. Le chemin, un chemin, c'est ce qui nous amène à notre destination. Christ nous amène à notre destination. Il sera aussi question de ce puissant symbole lors de la fête des tabernacles. Il nous sera aussi rappelé que dans l'édifice spirituel qu'est l'Église, qui se prépare comme fiancée de Christ, la pierre principale de l'angle, c'est Christ. Alors à nouveau, un autre puissant symbole qui sera évoqué pendant cette fête, la pierre angulaire. Parce que tout finalement se retrouve sur Christ. Tout converge en quelque sorte sur Christ, n'est-ce pas? La pierre angulaire, symbole de tout réel et solide fondement. Quel est notre fondement? Espérons qu'il s'agit de cette parole de Dieu, de ce qui est écrit, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2 et le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et il est bon de se souvenir de cela. Nous sommes édifiés, nos convictions, nos croyances sont édifiées, sont basées sur ce qu'ont écrit les apôtres et les prophètes. C'est sur cela que nous nous édifions, parlions du chemin, parlions de la porte, et tout cela se tient finalement, n'est-ce pas? Tous ces symboles sont interconnectés, ils sont liés les uns avec les autres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et c'est un fondement, mot important à nouveau. Et c'est un symbole aussi important. Regardez comment la Bible est symbolique, comment elle est riche en sens, en images. Christ était un orateur extraordinaire qui avait, évidemment, c'était le meilleur orateur que le monde ait connu, certainement. Il savait comment attirer l'attention des gens, il savait comment s'exprimer et de façon très efficace, et il était le meilleur orateur que le monde ait connu. D'ailleurs, c'était lui le logos, c'est-à-dire le porte-parole. C'est une des traductions du grec logos, n'est-ce pas? Alors nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre angulaire. Pour nous autres, individus qui vivons dans le monde moderne, l'idée de la pierre angulaire n'a pas toujours le même sens que cela avait il y a un certain nombre d'années ou de siècles. Aujourd'hui, on ne construit pas les bâtiments de la même façon. Souvent, je voyais même par exemple le bâtiment qui est en construction pour l'église aujourd'hui, pour nos bureaux. Eh bien, il y a une fondation, et après ils commencent à mettre des poutres métalliques, mais vous n'avez pas réellement une pierre angulaire, comme dans les anciens bâtiments. Mais lorsque Christ a parlé de cette pierre angulaire, cela avait un sens très important, c'était très significatif. C'était réellement la pierre d'angle, la pierre principale. Donc, comme je dis, aujourd'hui, ça n'a pas toujours le même sens pour nous, mais l'idée doit quand même être dans notre esprit, que c'est la pierre principale de tout l'édifice. Autre puissant symbole qui sera évoqué pendant cette fête des tabernacles que nous nous apprêtons à observer, est celui de Christ étant notre avocat. Il est notre avocat. Bon, j'espère que nous ne sommes pas nombreux à avoir eu l'occasion de nous retrouver devant un tribunal humain, mais souvent, quelqu'un qui est accusé de quelque chose a un avocat pour le défendre. Bon, essayez d'imaginer que souvent nous sommes accusés devant notre Père Céleste par l'adversaire, n'est-ce pas? Et il est très réconfortant de nous souvenir que nous avons un avocat qui est à nos côtés et qui nous défend. Et cet avocat, c'est Christ. Très belle image. C'est un symbole très profond, finalement, aussi. Et nous en parlerons pendant cette fête. J'en suis certain. À un moment ou un autre, dans cette fête, lors de l'un des messages, il sera question de notre avocat. 1 Jean chapitre 2 et le verset 1 parle de cela, nous rappelle cela, et c'est très réconfortant pour nous. 1 Jean chapitre 2 et le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous savez, je ne peux m'empêcher de penser que Satan nous attaque tout le temps. Et Satan est certainement auprès de notre Père. Tu veux dire que lui, là, ce gars-là, là, hein, il va entrer dans ton royaume, que c'est un des tiens, ben dis donc, tu sais, hein, il est plutôt imparfait encore. Hein. Enfin, un de ses hommes ou une de ses femmes. C'est pour les deux, n'est-ce pas? Mais souvent, il nous accuse. Alors, c'est réconfortant de savoir qu'il y a Christ qui est là, qui dit, oui, mais il essaye. Et puis, il n'est pas comme toi, il n'est pas spirituel, ce n'est pas un être spirituel, il est humain, et tu fais tout pour le perdre. Mais il essaye, et il est en croissance. Il a fait de gros efforts. Il s'est amélioré, elle s'est améliorée. Alors, Christ est là auprès du Père, et il nous défend. Il est notre avocat. C'est très, très encourageant, finalement. Et étroitement lié à son rôle d'avocat, nous aurons aussi l'occasion de méditer sur le fait que Christ est aussi notre médiateur. Notre médiateur. Hébreux chapitre 12 et verset 24. Hébreux chapitre 12 et le verset 24. Je suis toujours surpris par, étonné même, par le nombre de symboles et le symbolisme puissant qui existe dans la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, Hébreux chapitre 12 et le verset 24. Vous vous êtes approchés, et un peu plus loin, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance, il n'y a pas de médiateur humain. Christ est notre médiateur. Nous n'avons pas besoin de confesseur. Nous n'avons pas besoin de passer par un être humain pour avoir accès à Dieu. Nous pouvons parler à notre Père Céleste directement, directement. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'absolution ou la bénédiction d'un être humain. Ce n'est plus nécessaire sous la nouvelle alliance. Il y a un autre puissant symbole pour Christ, pour les vrais chrétiens et pour les vrais serviteurs de Dieu. En fait, ce symbole s'adresse à Christ comme à notre Père céleste. Parce que chacun d'eux, finalement, est notre rocher. Regardez, un autre symbole puissant, très évocateur, un rocher. Enfin, c'est pas un petit caillou, vous savez. Pensez à une falaise, pensez à une montagne. Parce que c'est ce que Dieu est pour nous. Essayez de bouger un rocher, hein, de déplacer un rocher, de déplacer une montagne. Non, il est fort, il reste là, il est solide, il est stable, il est puissant et on ne peut rien faire. Un rocher, hein, ça évoque quelque chose de solide, n'est-ce pas? Tout ce qui est rocher, c'est solide. Alors, notre Dieu est un rocher. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, et il sera certainement question de cela dans l'un des messages que nous entendrons lors de cette fête des tabernacles aussi. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont à manger un aliment spirituel. À nouveau, et on entre dans le symbolisme ici à nouveau, c'est une image. Aujourd'hui, nous avons besoin de nourriture physique, n'est-ce pas? Sinon, nous nous détériorons, notre corps meurt finalement, se détériore. Mais il est question de nourriture spirituelle. Ils ont mangé le même aliment spirituel. Est-ce qu'ils ont apprécié à ce moment-là cet aliment spirituel? Probablement pas, certainement pas. Mais nous, nous devons l'apprécier. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Aliment spirituel, breuvage spirituel. À nouveau, il est question de langage spirituel et de symbolisme. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Ce rocher, c'était Christ. Alors à nouveau, il y a ce symbole du rocher. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous n'avons rien à craindre, il est solide. Notre Dieu est solide. Incidemment, ce verset prouve que Christ était l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est un verset clé en ce domaine. Pendant cette fête, il sera aussi question de la parole, ou du verbe, ou du porte-parole. Parce que le mot « logos » en grec peut être traduit de ces façons. Je pense que la meilleure traduction est certainement le porte-parole, finalement. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Directement ou indirectement, il sera question pendant cette fête du porte-parole de Christ. Alors, Jean chapitre 1 et le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il devient donc clair qu'il y a deux êtres distincts. Il était avec Dieu et il était Dieu. Il sera question de lui, souvent, pendant cette fête. Il sera aussi question de notre nourriture spirituelle, de notre régime. Car Christ, notre régime spirituel, n'est-ce pas? À nouveau, il n'est pas question de juste de nourriture physique, quoique nous allons nous réjouir en mangeant des mets fins, des mets succulents, c'est ce que Dieu nous dit de faire pendant cette fête des tabernacles. Mais aussi, il y aura, et espérons-le, une bonne nourriture spirituelle. Je suis certain que ce sera le cas. Il faut simplement qu'individuellement, nous sachions apprécier cette nourriture spirituelle qui nous sera donnée. Mais Christ est aussi, d'après la parole divine, le pain, le pain. Et à nouveau, dans ce monde moderne, nous mangeons encore aussi du pain, mais souvent il y a beaucoup de personnes qui sont au régime, donc le mot pain n'a pas toujours le même sens, la même force que cela était le cas il y a des siècles ou de par le passé. Le pain, c'était la nourriture fondamentale en quelque sorte, pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, souvent nous mangeons autre chose. Et le pain ne fait pas toujours partie de notre régime. Mais lorsqu'il était question de pain au premier siècle, lorsque Christ a parlé de ces choses, lorsque les apôtres ont parlé de ces choses, cela évoquait quelque chose de très puissant, de plus puissant que cela ne l'évoque aujourd'hui. Mais essentiellement, Je suis français, donc j'aime bien le bon pain. Et j'ai du mal à me séparer. Je sais que je dois pas manger beaucoup de pain, hein, parce que je prends de l'âge et nous devons être un peu au régime. Mais pour moi, un bon pain complet est quelque chose de très bon. J'aime beaucoup un bon pain complet avec toutes sortes de grains. Ça a beaucoup de goût et ça nous nourrit, n'est-ce pas? Alors, Christ est comparé au pain aussi. Jean chapitre 6, verset 35. Nous étions dans Jean, quelques pages plus loin, quelques versets plus loin. Jean, le chapitre 6 et le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Et à nouveau, il passe du physique au spirituel. Le pain est quelque chose de physique, mais là, il dit, « Je suis le pain spirituel. » Autrement dit, « Je vais vous nourrir et je vous nourris spirituellement. Je vous apporte quelque chose qui est spirituel. » Bon, parlons maintenant d'autres symboles bibliques qui sont aussi souvent évoqués lors de cette fête des tabernacles. Dans bon nombre d'églises dites chrétiennes de ce monde, le Saint-Esprit est souvent représenté par une colombe. Or, que révèle la Bible? Que le Saint-Esprit descendit sur Christ comme, ou à la manière d'une colombe, quand Jean-Baptiste le baptisa. Donc cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une colombe. Mais il est descendu comme une colombe. Il a dû y avoir quelque chose, peut-être comme quelque chose de blanc qui s'est plus ou moins matérialisé et ça donnait l'impression que c'était une colombe. Donc c'était comme une colombe. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que le Saint-Esprit est une colombe, n'est-ce pas? L'huile d'olive, par exemple, n'est-elle pas un symbole plus adéquat du Saint-Esprit? Ou bien l'eau, avec ses pouvoirs purificateurs, un autre symbole? Ou le sel, quatre autres symboles. Un certain nombre de symboles font partie intégrante du message divin à l'humanité, parce qu'ils évoquent en une simple image des réalités spirituelles puissantes. Plusieurs symboles dont Dieu se sert dans sa parole se frayeront un passage dans les messages que nous entendrons lors de cette fête. Ils nous inciteront à la réflexion, à la méditation, et ils peuvent approfondir notre appréciation de la merveilleuse vérité divine. D'après le dictionnaire, un symbole, c'est, je cite, « un signe figuratif », un être animé ou une chose qui représente un concept, qui est l'image, l'attribut, l'emblème de quelque chose. Le drapeau, symbole de la patrie, par exemple. C'est le symbole, c'est l'exemple qu'il donne ici. En rhétorique, une figure par laquelle on substitue au nom d'une chose le nom d'un signe que l'usage a choisi pour la désigner. Et il cite par exemple l'exemple de la robe pour la magistrature ou l'épée pour l'état militaire, pour l'armée. Et la Bible est riche en symboles. Parce que Dieu se sert de ces signes riches en signification pour nous révéler sa pensée. Et ces symboles, soit directement et clairement, soit par déduction de notre part avec l'aide du Saint-Esprit, nous aident à nous rapprocher de Dieu, à saisir davantage la pensée divine. Tous ne comprennent pas ces symboles, plus qu'ils ne comprennent les paroles de Christ. Et la raison pour laquelle c'est le cas est expliquée dans Matthieu 13 et les versets 10 à 16. « Pour comprendre, il faut être appelé. » Pour comprendre, il faut être appelé. Jean chapitre 6, versets 44 et 65. Nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a appelé ne l'attire. Ne l'attire. Tant que le Père ne nous a pas attirés à lui, nous ne pouvons pas être appelés et être à Christ. Alors donc, tous ne sont pas appelés. Et il faut être appelé pour se soumettre à Dieu et avoir la bonne attitude. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Donc il y a des personnes pour qui cela a été donné et d'autres pour qui cela n'a pas été donné. Et Christ explique que les appelés peuvent comprendre les vérités divines et que les autres ne le peuvent pas. Et cela, nous ne devons pas l'oublier. Je me souviens, lorsque Dieu m'a appelé dans son église, il y a un certain nombre d'années, j'essayais d'expliquer à ma famille ce que j'avais découvert, ce que Dieu m'avait fait découvrir. Finalement, c'est Dieu qui ouvre notre esprit. Et ils ne comprenaient absolument rien. Ils pensaient que j'étais devenu fou, littéralement fou. Alors, quand Dieu nous ouvre l'esprit, là, nous commençons à comprendre ces choses, mais pour le restant, pour les autres personnes dans le monde, pour eux, c'est insensé. Pour eux, cela n'a aucun sens. Alors, Christ leur parlait en parabole souvent, et les apôtres disaient, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Et vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent que, ah, mais Christ parlait en parabole pour expliquer les choses. Pour les cacher. Pour les cacher. Et seuls les appelés peuvent comprendre. Alors, évidemment, il y a toutes sortes d'interprétations qui sont données de ces paraboles. Plus fantaisistes les unes que les autres. Alors Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et quel honneur, hein, quel privilège, souvenons-nous de cela aussi, et de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Hier, je donnais un sermon pour la fête des trompettes, ici, dans le Texas, à Sherman, et j'ai parlé de la différence entre entendre et écouter. Comme vous le savez, il y a une grande différence entre les deux. Souvent, nous entendons quelque chose, mais nous sommes un peu distraits. Mais alors, écouter, c'est quelque chose de différent, n'est-ce pas? C'est prêter attention et c'est saisir quelque chose. Alors, on prête l'oreille, on peut entendre, mais sans réellement comprendre ou prêter attention. Entendre, c'est une étape plus loin, n'est-ce pas? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ah, ils ont endurci leurs oreilles. Je connais une personne qui nous dit souvent, « Ah, moi, je ne veux pas entendre parler de cela maintenant. » Et c'est presque devenu comme un leitmotiv pour cette personne. Souvent, on lui dit, on veut attirer certaines, lui attirer l'attention de certaines choses pour qu'elle change, pour qu'elle modifie un peu sa vie. Mais elle nous répond presque invariablement, je ne veux pas en entendre parler maintenant. Je ne suis pas prêt pour cela. Bon, ça, c'est un peu l'idée qu'il y a ici. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et souvent, les êtres humains sont dans un état de déni aujourd'hui. Vous leur présentez la vérité, mais ils disent « Oh, je ne suis pas prêt pour ça. Je n'ai pas réellement envie d'aller là. » Pourquoi ? Parce qu'ils savent que si ils approfondissent un peu la question, cela va les placer devant une situation où il va falloir qu'ils changent. Or, ils n'ont pas envie de changer, pas maintenant. Ils ont peur de se convertir, d'être guéris, n'est-ce pas? Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Alors la fête des tabernacles pointe vers notre Père céleste et vers Christ et vers tout un univers spirituel merveilleux. Apocalypse chapitre 1 et le verset 12. Apocalypse chapitre 1 et le verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. C'est l'apôtre Jean qui parle ici. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il avait, les versets suivants révèlent qu'il s'agit de Christ, dans sa main droite, 7 étoiles. Symbolisme encore, un puissant symbolisme. Et verset 20 de Apocalypse 1, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Voilà, ce qui est formidable, c'est que souvent la Bible interprète ses propres symboles. Et à nouveau, quand vous faites un peu de recherche, que vous regardez ce que certaines personnes disent, essayant d'expliquer les symboles, ils racontent toutes sortes de bêtises, oubliant ou ne sachant pas que la Bible interprète ses propres symboles. Alors ces 7 étoiles sont les anges des 7 églises, aussi simple que cela. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous apprenons en poursuivant notre lecture qu'il s'agit de sept congrégations en Asie mineure, de l'Église de Dieu au 1er siècle, ayant chacun leur ange particulier, et que ces sept congrégations symbolisent également sept étapes que l'Église de Dieu allait traverser au fil des siècles, jusqu'au retour de Christ. Il y a évidemment des passages où les étoiles représentent des astres dans l'Église, dans la Bible, pardon. Il y a des moments où il est question, littéralement, d'astres. Mais les étoiles peuvent symboliser aussi, surtout dans les prophéties, des anges. Okay? La Bible interprète souvent ses propres symboles, soit par une explication directe, soit, comme dans le verset que nous venons de lire, soit par déduction de notre part, à l'aide du Saint-Esprit. Nous venons de voir que quand Dieu parle d'étoiles, il peut être question d'anges. Quand Dieu parle symboliquement, évidemment. Dans le livre de Job, au 38e chapitre, par exemple, Dieu confronte le patriarche en lui demandant où il était lorsqu'il a fait telle ou telle chose, lorsque telle ou telle chose s'est produite dans le monde pré-adamique, et il lui pose la question, il dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Il met Job devant sa situation, là, devant le fait accompli. Job pensait savoir pas mal de choses et il avait une certaine sagesse humaine, mais il lui manquait beaucoup de connaissances. Alors Dieu le confronte, c'est vers la fin, comme je dis, au chapitre 38, et le verset 4, et lui dit « Où étais-tu quand je fondais la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Ah, alors là, on s'aperçoit qu'on est en présence de symboles, n'est-ce pas ? Les astres n'éclatent pas en chants d'allégresse. Et il explique ici que ces étoiles étaient les fils de Dieu et ils poussaient des cris de joie. La Bible interprète ses propres symboles, n'est-ce pas ? Dans la Bible, les anges sont donc symbolisés par des étoiles. En fait, le nom Lucifer, traduction latine d'astre brillant dans Ésaïe 14 et le verset 12, s'applique à Satan avant sa chute. Il était jadis un astre brillant ou un être porteur de lumière. Il brillait. Ce n'est évidemment plus le cas. Mais son nom, Lucifer, Lucie, c'est Lucie en latin, c'est lumière, et ferré, c'est apporter, apporteur de lumière. Il apportait la lumière. Jadis, Lucifer, celui qui est devenu Satan, était porteur de lumière. C'était un astre. À nouveau, un très profond symbolisme ici. Prenons Apocalypse 17, il est question de deux symboles mystérieux servant à décrire des événements encore futurs. Au verset 1, nous lisons, et je ne fais que citer, Apocalypse chapitre 17, verset 1, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Une coupe est évidemment quelque chose que l'on boit. Et figurativement, comme dans ce chapitre, il est question de sept fléaux que devront boire ou ingurgiter en quelque sorte, ou subir les méchants, les rebelles. Qui est cette prostituée et que représentent les grandes eaux, expression aussi traduite par nombreuses eaux? Le verset 18 nous éclaire quelque peu sur l'identité de cette femme. Verset 18 d'Apocalypse 17, à nouveau, je vais rapidement ici, vous connaissez, vous êtes familier avec ce passage. La femme ou la prostituée que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Il est donc question d'une ville symbolique qui a influencé les rois et qui s'apprête à influencer d'autres dirigeants. Et le verset 15 nous dit ce que représentent les grandes eaux. À nouveau, un autre symbole. La Bible est tellement riche en symboles, tellement riche en symboles. Verset 15, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. » Vous voyez, la Bible, à nouveau, explique ou révèle quels sont ces symboles. Elle donne l'explication de ses propres symboles. « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Et pour bien comprendre le symbolisme de la femme, nous devons consulter la Bible pour savoir ce qu'une femme peut symboliser. Bon, dans la Bible, une femme peut décrire simplement le sexe féminin, mais aussi symboliquement une église. L'ancienne Israël est appelée l'assemblée au désert, dans Actes chapitre 7, verset 38. Je ne fais que mentionner le passage ici. Et pour décrire comment Dieu fit sortir Israël d'Égypte et en fit une nation, la Bible se sert de l'analogie d'une jeune femme devenant adulte dans Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Et là encore, je ne fais que citer, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, représentant la nation d'Israël. Mais tu t'es confiée dans ta beauté, tu t'es prostituée. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostituée. Tu as pris tes fils et tes filles que tu avais enfantées. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. L'assemblée au désert, l'ancienne Israël, est donc représentée dans la Bible par une femme, mais aussi une femme infidèle, qui s'est prostituée. Et dans le Nouveau Testament, la vraie Église et les fausses Églises sont représentées ou symbolisées par des femmes. Tous ces symboles, nous allons en entendre parler dans les messages que nous entendrons lors de la fête des tabernacles, directement ou indirectement. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 32, Paul établit un parallèle entre les rapports mari et femme et ceux de l'Église avec Christ. À nouveau, un autre symbolisme. Il en sera question aussi pendant cette fête des tabernacles. Toutes ces choses sont très symboliques et très puissantes, très évocatrices, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 19, il est question des noces de l'agneau. Ben, vous pouvez déjà imaginer que lors du dernier grand jour, il sera question des noces de l'agneau, parce que c'est la signification de ce jour qui vous sera expliquée plus en détail. Et l'Église est la fiancée de Christ. La vraie Église est appelée la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut est notre mère. Notre mère. Une mère éduque son enfant. Non seulement elle le met au monde, mais elle l'éduque. Alors, à nouveau, ce mot « mère » est un symbole. Il y a la mère physique, la mère humaine, mais aussi c'est un symbole très puissant qui est très évocateur. L'Église, pour nous, est une mère. Il est question de cela dans Galates chapitre 4 et le verset 26. Je ne m'y reporterai pas non plus. Galates chapitre 4 et le verset 26. Essentiellement, mon message aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention sur le fait que nous allons nous plonger pendant cette fête des tabernacles dans un profond symbolisme. Il va être question de plusieurs symboles puissants qui sont très évocateurs et qui nous aident à appréhender davantage la merveilleuse pensée divine, la pensée de notre Père Céleste. La Bible se sert donc souvent d'une femme pour décrire une église. Et si nous revenons à Apocalypse 17, il est clair que la grande prostituée, qui domine sur les nations et les royaumes, est une fausse église, Elle est appelée mère au verset 5 et femme au verset 6. Vous voyez, ce symbolisme revient. Et quand on comprend ce symbolisme, on peut voir qu'Apocalypse 17 décrit une entité religieuse basée dans une ville réputée, exerçant son influence sur les nations et sur les royaumes humains parlant diverses langues, n'est-ce pas? Et le verset 9 du même chapitre nous dit que cette femme, cette église, est assise sur sept montagnes. Il peut s'agir ici de symboles ou de montagnes ou de collines littérales, n'est-ce pas? Puisque nous parlons de montagnes, une montagne dans la Bible est souvent un symbole d'un royaume ou d'un gouvernement. Il va être question, je vous garantis, pendant cette fête des tabernacles, de montagnes à un moment donné. Il y a des versets prophétiques qui parlent de montagnes. Alors vous allez en entendre parler pendant cette fête. Jérémie 51 illustre bien ce point. On peut lire dans Jérémie 51, versets 24 à 25. Et nous pouvons nous emporter à ce passage. Jérémie 51, et les versets 24 et 25. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Et Dieu utilise ici un symbole pour décrire Babylone. Il sera bien sûr question de la Babylone moderne, n'est-ce pas? Mais il dit, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Le mot montagne est utilisé dans cette prophétie pour décrire Babylone. Mais dans Daniel 2, il est question d'une bonne montagne. Hein, au verset 35. Alors Daniel chapitre 2 et le verset 35. Daniel chapitre 2 et le verset 35. Daniel 2, 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'or, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Il ne faut pas être bien futé ici pour comprendre qu'il est question d'un symbole et non d'une montagne littérale. Une montagne ne va pas remplir toute la terre. Daniel venait d'expliquer à Nebuchadnezzar la signification de son songe, qui était plein de symboles. Incidemment, ici, cette montagne est une bonne montagne puisqu'elle symbolise le gouvernement ou le royaume de Dieu. Alors, il va en être question, hein, indubitablement, pendant cette fête des tabernacles. Vous allez entendre parler de cette montagne, qui est un symbole à nouveau. Au verset 44, il est écrit, et je cite, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. » Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Cette montagne est un royaume, à nouveau, le royaume de Dieu, qui subsistera ensuite éternellement. Bon, la Bible parle aussi de collines, de manière symbolique, et nous allons entendre aussi parler de cela pendant la fête des tabernacles. Il en est question, par exemple, dans Michée, chapitre 4 et les versets 1 et 2. Et je ne ferai que citer le passage. À nouveau, il en sera question pendant cette fête. Je suis certain que vous allez entendre des messages qui feront allusion à cela. Dans Michée, chapitre 4, les versets 1 à 2, il est écrit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel » à nouveau, on revient sur ce symbolisme, hein, du gouvernement divin, cette montagne, c'est un gouvernement, c'est le royaume de Dieu. La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et rappelez-vous que les autres montagnes sur les autres gouvernements, n'est-ce pas? Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Alors, montagne, colline. Montagne, c'est imposant. Colline, c'est beaucoup moins. Une colline, c'est beaucoup plus petit qu'une montagne, n'est-ce pas? Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Alors, les fêtes divines énumérées dans leur totalité dans Lévitique 23 sont riches en symbolisme. Elles sont riches en symbolisme. Nous venons de voir 9 symboles qui nous sont familiers à nous dans l'Église de Dieu. J'ai cité ces passages rapidement, simplement comme référence. Et nous avons vu que dans la Bible parle symboliquement d'une montagne, par exemple, qui représente un royaume ou un gouvernement. Et dans le même ordre d'idée qu'une colline est une petite nation ou un petit royaume ou un petit gouvernement. Et nous avons vu que cela s'est mentionné dans Michée. On peut lire dans la Bible en français courant, je ne cite pas souvent cette version-là, mais par exemple dans la Bible en français courant, on peut lire ceci « Et toi, colline de Jérusalem, qui veille sur le peuple comme une tour de garde, tu vas bientôt retrouver ton autorité d'autrefois. Jérusalem sera de nouveau la capitale du royaume. » Intéressant comme passage, et dans cette version que nous utilisons parfois. Et les passages que nous venons de voir contiennent donc 9 autres symboles que la Bible interprète interprète clairement. Nous avons vu les chandeliers. Les chandeliers sont des congrégations de la vraie Église. Les étoiles sont des anges. Nous avons vu que la prostituée du livre de l'Apocalypse est une grande fausse Église. Les grandes eaux sont des peuples. Nous avons vu que la femme symbolise aussi une Église. Et il a été question de la Jérusalem d'en haut, qui est l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Et l'Église est aussi une mère, comme nous l'avons vu. Il va être question de tous ces symboles lors de cette fête. Il était question des montagnes qui peuvent symboliser des royaumes ou des gouvernements importants, des collines représentant symboliquement des petites nations. Bon, mais il sera aussi question pendant cette fête des tabernacles d'un autre symbole puissant, un autre symbole très évocateur dans la parole de Dieu, l'épée. L'épée. Je peux vous assurer qu'il sera question pendant cette fête, directement ou indirectement, de l'épée, de ce symbole qu'est l'épée. Il en est question dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous pouvons nous y reporter. Éphésiens chapitre 6 et le verset 17. Paul nous dit ici, il écrivit cela aux Éphésiens, hein, mais cette lettre, cette épître a été préservée pour tous les chrétiens au fil des siècles, donc elle ne s'adressait pas uniquement aux membres de l'Église de Dieu à Éphèse, mais à nous tous aussi. Hein. Éphésiens chapitre 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et j'espère, je pense que pendant cette fête des tabernacles, nous aurons souvent cette épée dans la main, n'est-ce pas? Cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous allons étudier cette parole. Nous allons nous plonger dans cette parole. Et nous allons nous plonger dans tout ce symbolisme, comme je le disais au début de ce message. Dans ce passage sur les armes spirituelles dont nous devons nous revêtir, incidemment, Paul parle de l'épée de l'esprit, il explique ce symbole en disant que l'épée est un symbole pour la parole de Dieu. Et en fait, dans ce passage, la Bible nous offre cinq autres symboles, dont il sera probablement directement ou indirectement aussi question lors de cette fête, par exemple, de la ceinture qu'est la vérité. Je pense que nous allons parler de la vérité, n'est-ce pas? C'est la ceinture de la vérité qui maintient tout en place. Hein. Notre ceinture maintient beaucoup de choses en place. La cuirasse de la justice qui protège notre cœur. Ce que nous avons aux pieds, hein, ces sandales. Ce que nous avons aux pieds, l'évangile qui nous aide dans le cheminement de nos vies. C'est très symbolique aussi à nouveau, n'est-ce pas? À nos chaussures nous emmènent où? Bon, d'accord, c'est notre tête qui nous dit d'aller dans telle ou telle direction, mais ce que nous avons au pied, c'est symbolique, hein, dans la parole de Dieu, de la direction que nous prenons. Il sera question de cela pendant la fête aussi. Ce que nous avons au pied, l'évangile qui nous aide dans le cheminement de nos vies. Il sera aussi question du bouclier de la foi, qui nous protège contre les attaques. Un bouclier qui nous protège contre les attaques, hein, du malin essentiellement. Et le casque du salut, le casque est placé sur notre tête, le casque du salut qui protège nos idées. C'est très symbolique et c'est très puissant, c'est très évocateur aussi. Il s'agit là de symboles puissants qui nous invitent à méditer sur la vérité, la justice, l'évangile, la foi et le salut. Et englobant pour ainsi dire ces cinq éléments profondément symboliques, mais profondément significatifs aussi, l'épée de l'esprit. Mais pourquoi? Pourquoi? Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. La parole de Dieu, Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est formidable la profondeur qu'il y a dans ces propos. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que la Bible fait pour nous. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait pour nous. Donc c'est une épée spirituelle. Elle juge nos sentiments. Et elle nous aide à faire le point spirituellement parlant, n'est-ce pas? Et les pensées de notre cœur, elle nous aide à comprendre les pensées de notre cœur. Cette fête va nous aider à juger nos sentiments et les pensées de notre cœur. Christ se sert de cette épée. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Apocalypse chapitre 1 et le verset 16. Apocalypse 1, 16, il avait les questions de Christ. Dans sa main droite, sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ouais, à nouveau, je pense que c'est symbolique. Ouais, j'ai du mal à imaginer que Christ, sa langue est comme une épée. Je pense que c'est symbolique ici. Mais nous venons de voir que l'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole sort de la bouche, n'est-ce pas? Alors, tout cela, c'est d'un profond symbolisme, n'est-ce pas? De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants. Il y a aussi les questions de la lumière et des ténèbres aussi dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? David, dans 2 Samuel 22 et le verset 29, je ne ferai que citer ce passage ici, mais dans 2 Samuel 22, 29, David déclare « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. L'Éternel éclaire mes ténèbres. » Alors nous voyons donc qu'il y a dans la Bible un profond symbolisme, de profonds symboles. Je voudrais que nous nous reportions maintenant à un autre symbole, que nous parlions maintenant d'un autre symbole qui est celui du front, le front, le front. Ézéchiel 33, Ézéchiel 3 et le verset 7 maintenant. Ézéchiel 3, 7, parce qu'il va être question de cela aussi, pas mal pendant cette fête des tabernacles. Ézéchiel chapitre 3 et le verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. On voit déjà qu'il s'agit de quelque chose de symbolique. Le front dur, il n'est pas question de la dureté de notre front physique, il est question de quelque chose de mental, de spirituel ici. La maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Le front dans la Bible est le siège de la volonté, le symbole de ce que nous pensons et de nos convictions, en quelque sorte. Rappelez-vous, dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 3, il est écrit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » C'est symbolique. Les serviteurs de Dieu sont marqués au front. Pourquoi? Parce que c'est un symbole de ce qui se passe derrière ce front, en quelque sorte, n'est-ce pas? Dans Ézéchiel 9 et le verset 4, il écrit « L'Éternel passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » On voit à nouveau ici qu'il est question non pas de l'enveloppe extérieure, en quelque sorte, mais de ce qui se passe dans la tête, de ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? La main est un autre symbole aussi, un autre symbole dont il sera question, ça je vous garantis, directement ou indirectement, il sera question dans certains des messages ou l'un des messages de cette fête, il sera question de la main. La main est un symbole de nos activités, de ce que nous faisons. Si nous nous reportons à Éphésiens, chapitre 2, je pense que nous pouvons nous terminer sur ce passage. Éphésiens chapitre 2 et le verset 19. Éphésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Puissent les fêtes de l'Éternel nous aider à devenir cette habitation de Dieu en esprit. Et avant de clore, je voudrais vous rappeler à tous, essayez de vous souvenir que une bonne fête des tabernacles, c'est une fête aussi où nous pouvons servir. N'oubliez pas de servir. Il y a toujours des domaines dans lesquels vous pouvez aider pendant cette fête des tabernacles. N'oubliez pas cela. Bien, je vous souhaite à tous maintenant, ça va venir bien vite maintenant, demain soir, ça sera la soirée inaugurale. Eh bien, je vous souhaite à tous une merveilleuse fête des tabernacles. Et je vous dis à tous, au revoir et à bientôt.